France Culture.
C'est une ville d'un million d'habitants tombée le 26 janvier dernier. Goma, capitale de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Une cité logée entre le lac Kivu et la frontière rwandaise. Désormais, Goma est entre les mains du M23, un groupe armé rebelle soutenu par le Rwanda. Alors pourquoi les tensions entre la RDC et le Rwanda persistent-elles depuis près de 30 ans? Malgré les accords de paix successifs, quel est le rôle exact du Rwanda dans la résurgence du M23? Quelle est la nature profonde de ce conflit? Pour en débattre, pour répondre à ces questions, trois invités ce soir. Jean-Claude Félix Tchikaya, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur spécialisé dans les études africaines. Vous travaillez au pôle Afrique de l'Institut de Prospective et de Sécurité en Europe. Et à paraître, votre prochain ouvrage s'intitule « Les enjeux géopolitiques multidimensionnels en Afrique ». Face à vous, Madeleine Mukamabano, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste franco-rwandaise, anciennement à RFI. Vous êtes également ancienne productrice à France Culture. Vous avez obtenu le prix Bayeux des correspondants de guerre en 2000 pour votre documentaire qui a été diffusé sur France Culture également et intitulé « 5 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda ». Avec nous et à distance, François Pollet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et chercheur au CETRI à Louvain. Vous avez récemment soutenu une thèse sur les nouvelles formes de protestation pacifique de la jeunesse en République démocratique du Congo. Vous avez participé à l'ouvrage collectif intitulé « Congo, reproduction des prédations », un livre qui a paru en septembre 2024 aux éditions Sileps. Un grand merci à tous les trois d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Cette guerre a fait beaucoup de dégâts, mais au moins nous respirons toujours. Beaucoup de gens ont été mutilés, tant d'autres sont morts, et nous ne savons pas jusqu'où cela va aller.
On retourne dans nos villages. On n'a même pas 100 francs congolais. Et pour survivre, on vend nos bâches, qui sont en fait des bâches récupérées. Et là où on va, il n'y a absolument rien.
Les dangers sont là parce que l'eau que nous venons puiser ici, c'est une eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer. Malgré qu'on est en train de mettre quelques chlores, mais cela n'est pas une garantie que c'est une eau qui est devenue potable.
De nombreuses femmes sont venues voir leurs maris et demandent des rations de survie. Elles ont faim. Elles sont aussi venues voir si leurs maris sont vivants ou non.
Un reportage signé France 24 qui donne la parole à des habitants et des réfugiés à Goma. Et je voudrais, avant que l'on fasse l'historique de ce conflit, que l'on tente de qualifier la nature première, fondamentale de cette guerre qui dure depuis plusieurs années. En réalité, Jean-Claude Félix Tchikaya, est-ce qu'il s'agit pour vous d'un conflit économique? On parle beaucoup des minerais qui seraient au centre de cette guerre. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une guerre stratégique ou bien l'enjeu est plus profond et lié au génocide des Tutsis qui a eu lieu déjà au Rwanda il y a plus de 30 ans?
C'est un enjeu, c'est un conflit qu'on peut mettre sous le sceau de trois mots. C'est une problématique historique et au présent, politique, géopolitique et géoéconomique. Un levier déterminant, hein, la géoéconomie, on parle de la diversité minéralogique de RDC.
De la République démocratique du Congo.
De la République démocratique du Congo. Beaucoup se posent la question aujourd'hui au moment où les deux présidents viennent d'accepter de se rencontrer ce 8 février à Dar es Salaam, capitale économique de Tanzanie. Quelle est la nature de cette problématique? Elle est multidimensionnelle. Et elle est de fait régionale. La RDC, le Rwanda, ont des ethnies et des cultures communes. D'ailleurs, quand vous êtes parfois à Goma, vous pouvez aller dîner ou déjeuner en passant la frontière, ce que j'ai déjà fait. Et d'ailleurs, ça peut être un peu contre-intuitif pour les auditeurs s'ils ne connaissent pas bien la région. Beaucoup de Congolais, quand le M23 est passé, bien sûr, ils ont fui au regard des exactions, des massacres, des viols qui commettent depuis des années. C'est référencé. Donc, les Congolais vont au Rwanda avec la population rwandaise. Donc, il n'y a pas un antagonisme larvé entre les Rwandais et les Congolais. Et d'ailleurs, les présidents de la région, quand ils prennent la décision de de se mettre de côté de M. Tshisekedi, ce n'est pas partisan, ce n'est pas contre le président rwandais. C'est au regard, et c'est sur cela que j'adosse donc mon propos, au regard du droit international, et notamment au regard de l'intégrité, de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc il est important de s'adosser, de s'arrimer au droit international qui permet d'avoir un regard pour rentrer dans la complexité, pas seulement au présent. Les menaces effectives sont déjà lourdes avec une société civile avec plus de 7 millions de déplacés pour la RDC, un peu plus de 2 millions pour Goma, avec une population en face du Rwanda qui est très inquiète, qui n'est pas contre la population du Rwanda. Donc c'est bien une triple dimension politique, géopolitique et géoéconomique, et donc les multinationales qui sont aussi très silencieuses, mais aussi, je voudrais pointer, voire fustiger, stigmatiser l'Union africaine, qui est une institution panafricaine, donc sur le point du concept philosophique et politique, et qui est bien dans une posture de reculade, alors qu'elle devrait être en avance, et avant qu'on sollicite l'Union européenne ou l'ONU, qui, pour tous, condamne, mais ne sanctionne pas. Donc on est à une marche qui n'est pas la bonne pour intervenir sur ce conflit.
On va revenir bien sûr sur le rôle des acteurs régionaux, mais avant cela, est-ce que vous êtes d'accord, Madeleine Mukamabano, avec ce diagnostic? Et le premier d'entre eux, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'antagonisme profond entre les Rwandais et les Congolais.
Moi, je ne suis pas congolaise, mais j'espère que les Congolais qui sont concernés au premier chef vont faire un bon diagnostic et pas un diagnostic démagogique de la vraie nature. Là, on sort des slogans, on sort de la propagande de tel ou tel régime. Mais il faut faire le diagnostic réel.
Alors quel est-il, ce diagnostic?
C'est un conflit politique et idéologique. C'est là où il est dangereux. C'est un conflit politique parce que les combattants, le M23, ce sont des Congolais. Mais à qui finalement on ne reconnaît même pas leur congolité, leur citoyenneté. Quand on entend les hommes politiques parler d'eux en disant c'est des Rwandais, ils n'ont qu'à retourner chez eux. Quand on voit tout ce que les populations rwandophones du Kivu, du Nord et du Sud Kivu ont souffert depuis 1994, depuis l'arrivée des génocidaires Hutu du Rwanda et de l'armée rwandaise qui venait de commettre le génocide au Rwanda, sans que les différents pouvoirs qui se sont succédés à Kinshasa lèvent le moindre petit doigt. Je dis que c'est politique parce que ça pose une question qui va plus loin. Ça pose la question de la relation entre le pouvoir central de Kinshasa et ses populations périphériques. Il ne faut pas oublier que le Congo, la République démocratique du Congo, a une superficie 4 fois celle de la France, soit les 2/3 de l'Europe.
C'est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne.
Oui. On est à Kinshasa. Par ailleurs, le Congo a 8 frontières avec d'autres pays africains. Le Congo a donc automatiquement des populations transfrontalières. Quel est le sort qui est réservé à ces populations transfrontalières? Sont-elles reconnues dans leur dignité de citoyen, dans leur citoyenneté? Ont-elles droit à la sécurité comme tout le monde? Moi, pendant qu'on tuait dans le sud et nord Kivu, la population de ce qu'on appelle les Banyamulenge du sud Kivu, elle a presque totalement été anéantie par les milices Hutu génocidaires qui venaient de commettre le génocide au Rwanda, sans que le gouvernement de Kinshasa bouge. Qu'est-ce que ça veut dire? On se pose la question, c'est l'impuissance ou c'est parce que finalement ces gens-là, ce n'est pas tout à fait nos citoyens? Si c'était arrivé dans la province du Kasaï, par exemple, dans le centre du Congo, est-ce que le gouvernement aurait réagi de la même façon? Je ne sais pas.
Une réaction, Jean-Claude Félix Tshikaya, et je ferai ensuite réagir François Paulet.
Oui, j'abonde en partie dans le... C'est pour ça que j'ai cité le mot politique en premier chef, en premier lieu, et notamment sur le plan politique et au présent. Mais cela, pour le M23, ne résiste pas au fait... J'ai déjà rencontré donc certaines personnes du M23. Je connais la situation de ceux qui peuvent revendiquer d'être ostracisés, mis de côté. Les inégalités sont flagrantes et historiques. Mais cela...
Vous savez que...
Madame, permettez-moi.
Vous avez des milliers de réfugiés.
Non, mais madame, permettez-moi juste de dire que je suis d'accord avec vous. Sur le plan de... Vraiment, que l'aspect premier, j'ai dit, le politique est saillant. Mais cela ne résiste pas. Je me suis arrémié au droit international. Quand le M23 avance... sans banderole, mais armé jusqu'aux dents, viol, tue, bébé, femme, les bilans croisés d'institutions, d'ONG, d'institutions locales, d'institutions régionales. Je ne minore pas les responsabilités des gouvernements de RDC successifs à l'égard des populations différentes, mais qui font et qui sont la RDC dans leur souveraineté.
Alors je fais
mais on ne peut pas, ne serait-ce que le GPS où ils se trouvent en ce moment. À chaque fois qu'ils avancent, en commettant ces exactions euphémistes, c'est un euphémisme, et se pose où se trouve la diversité minérologique qui revend au Rwanda. Donc je ne minore pas du tout l'aspect politique.
Je ne suis pas d'accord. Mais on y reviendra. Croyez-moi, ce qui tue. Quand on se bat Madeleine à côté Cabanel, de son propre peuple,
je voudrais juste, s'il vous plaît,
avec des gens qui vous connaissent, des gens qui sont chez eux.
Moi, je suis chercheur. Excusez-moi.
Des gens qui sont chez eux, vous le savez.
Je voudrais juste.
Vous êtes chercheur, je suis journaliste.
Je voudrais juste, s'il vous plaît,
vous savez
faire réagir.
Oui, François Paulet. Ceux qui violent, sont ces milices. Ce sont ces milices.
Alors, on pourra peut-être parler plus largement des milices qui sont au nombre de...
Je voudrais faire réagir. François Paulet, je vous donne la parole. Comment est-ce que vous qualifiez les motifs de cette guerre et la nature plus largement de ce conflit? Et par ailleurs, j'aimerais bien que personne ne coupe la parole à l'autre dans ce débat. Merci à tous les trois. François Paulet.
Oui, mais je suis assez d'accord avec l'idée selon laquelle ce conflit est véritablement multidimensionnel. Donc, à des causes à la fois sécuritaires, géopolitiques, mais aussi économiques et commerciales, et notamment l'enjeu de l'accès aux ressources minières. Mais je crois que ce qu'il est important, c'est de mettre aussi en évidence la profondeur historique des tensions sous-jacentes à ces mobilisations de groupes armés. Et quand je dis profondeur historique, il faut véritablement faire de l'histoire longue et... prendre en considération les vagues de migration qu'il y a eu depuis la colonisation belge, des migrations tantôt organisées, tantôt plus informelles, et donc avant le génocide rwandais, du Rwanda vers les Kivu. Donc il y avait un différentiel démographique important entre ces deux régions. Et donc, graduellement, au cours des années 60, 70, 80, 90, la densité démographique dans les Kivu a augmenté, la compétition pour les ressources foncières, pour l'accès à la terre, mais aussi pour l'accès au pouvoir politique traditionnel et au pouvoir politique moderne, cette compétition, cette rivalité s'est accentuée entre les groupes autochtones et les populations arrivées, parfois depuis plusieurs générations, depuis le Rwanda, et cette pression démographique, cette tension sur cette possibilité des manipulations politiques en sens divers et variés, notamment par le président Mobutu déjà à l'époque autour de la nationalité des personnes rwandophones. Et donc, vous voyez, il y a un cocktail explosif qui précède le génocide rwanda, c'est-à-dire qu'on parle déjà de la guerre paysanne au Kivu dans les années 60, et puis à nouveau, il y a des massacres en 93. Donc en 93, excusez-moi, qui sont liés à ce cocktail, si vous voulez, de pression sur les ressources naturelles et de manipulation politique par les autorités. Et effectivement, les populations rwandophones ont pu être et ont été même certainement victimes de formes de d'ostracisme, de discrimination, de violence politique à leur endroit. Donc effectivement, il y a eu ces populations rwandophones ont été victimes. Mais d'un autre côté, on assiste aussi à une instrumentalisation géopolitique de ces difficultés par le Rwanda qui, lui, a ses propres objectifs en termes d'influence militaire et économique dans les Kivus. Donc il y a des causes à la fois politiques et géopolitiques qui sont enchevêtrées.
Je voudrais vous faire réagir, Madeleine Mukabano, sur le rôle plus précis du Rwanda dans ce conflit. Rapport après rapport, l'ONU indique que le Rwanda est impliqué d'une manière directe et indirecte. Indirecte parce que elle soutient des groupes armés, parce que son armée intervient directement également au Nord Kivu dans ce conflit, et d'une manière indirecte, c'est-à-dire plus peut-être sur des enjeux stratégiques. Quel est le rôle du Rwanda concrètement dans ce conflit et son implication?
Oui, je vais répondre tout de suite, mais juste un mot pour répondre à M. Paulet. Les conflits qu'il a pu y avoir dans le Kivu avant 1994, ce sont des conflits habituels de lutte de foncière entre les populations, les différentes populations. Ça n'avait ni un caractère ethnique, ni un caractère idéologique. On ne peut pas continuer à se mentir, à évacuer la dimension idéologique amenée par les génocidaires Hutus du Rwanda qui ont été installés en 1994, dès la chute du régime de M. Habyarimana, à 5 km de la frontière rwandaise, en violation du droit international. Et là-dessus, la France aussi a ses responsabilités. Je crois que vous avez lu tous, ici, autour de cette table, le livre du lieutenant-colonel Guillaume Ancel.
Oui. On y reviendra, mais un mot tout de même, je vous demande simplement aussi de répondre à mes questions tous les trois par heure, s'il vous plaît. Oui. Un mot quand même sur le rôle du Rwanda, donc dans ce conflit, quel est-il ?
Le Rwanda, c'est plutôt, quand on parle du conflit politique et sécuritaire, pour le M23, pour les Congolais rwandophones qui sont chassés de chez eux, où les leurs sont par milliers dans des camps de réfugiés, ils croupissent dans des camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda depuis plus de 25 ans, chassés par des milices génocidaires du Rwanda. Pour le Rwanda vit sous la menace de ces milices-là. Depuis 1994, elle a demandé de respecter le droit international, de déplacer ces milices-là. La MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, avait pour mission de les désarmer, de les regrouper, de les désarmer et de l'éloigner. Ils ne risquent rien d'ailleurs à retourner au Rwanda parce qu'il n'y a pas au Rwanda la peine de mort. Ils ont été jugés comme d'autres génocidaires ont été jugés. Rien n'a été fait. On les a laissés là. Ils ont commencé à faire des incursions au Rwanda. Et quand le Rwanda parle de sa sécurité menacée, c'est pas une posture. C'est pas une posture. Il y a eu des incursions. Je me souviendrai toujours de l'une d'elles parce qu'elle a eu lieu quand j'étais en vacances au Rwanda. Ils ont investi en collège de filles. C'était un internat. Des gamines de 11 à 14 ans. Ils leur ont demandé de se séparer entre Hutus et Tutsis. C'est ce qu'ils faisaient partout, sur les routes, dans les marchés. Les filles ont refusé de se séparer. Toutes les gamines de 11 à 14 ans de ce collège-là ont été massacrées. Le Rwanda fait tellement d'efforts pour réconcilier les gens. Aujourd'hui, vous allez au Rwanda, il y a même des mariages mixtes entre les Hutus qui ont tué, qui sont rentrés dans les villages. Tous ces efforts-là sont menacés par le spectre de ces milices où les gens disent ils vont rentrer, ils vont recommencer à tuer. Ils vont rentrer des milliers de Hutus, simples paysans, qui ont été transformés en tueurs, ont peur que leurs congénères reviennent et les forces à tuer. C'est pas une posture, c'est une réalité.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Claude Félix Tchikaya? Est-ce que l'implication directe et indirecte, on l'a dit, hein, notamment le soutien apporté par le Rwanda au M23, s'explique par la situation sécuritaire? Aujourd'hui, la situation du Rwanda serait menacée, notamment sur sa frontière ouest.
Alors, c'est un élément indiscutable et à prendre en compte. Mais comme je l'ai dit, je l'ai souligné tout à l'heure, j'ai été arrêté, mais je vais continuer. Mais ça ne résiste pas aux faits. Moi, je suis d'accord avec vous sur cette intégrité-là de la souveraineté et sur le plan de la population du Rwanda, qui doit être donc la population qui doit être protégée. Toutes les chancelleries de la région, même l'Union africaine et le monde entier, et notamment la majeure partie de la RDC à 99,9, souhaitent qu'il n'y ait plus ce genre d'incursion. Parce que eux-mêmes le vivent. Donc, pourquoi les présidents de la région, pourquoi les populations qui sont même en dehors de la région de la RDC de Rwanda sont du côté de Félix Tshisekedi? Et pas contre Kagame, mais demande à Monsieur Kagame au M23 de se retirer. Parce qu'il y a
Félix
une imbrication. Tshisekedi
qui est le président du Congo.
Parce qu'il y a une imbrication. Donc il ne demande pas, il ne souhaite pas, il souhaite plutôt qu'il y ait une prise de position de Félix Tshisekedi, le président de RDC, qui arrête de prendre comme armée de soutien dans sa guerre contre le M23 et les autres milices, la partie que vous venez donc dénoncer, qui est bien sûr accusée. C'est là le paradoxe, et notamment pour plusieurs milices qui, au Congo, sont recherchées pour crimes de guerre, et là, sont arrimées à l'armée congolaise pour combattre contre les M23. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est une contradiction totale. Et donc, ce qui va être discuté, et ce qui fait blocage, et ça va être discuté, j'espère, le 8 février à Dar es Salaam, en Tanzanie, parce que cela bloque, c'est le nœud. Si M. Tshisekedi arrête, le président de RDC, de prendre avec lui ce type de milice, qui, malheureusement, rend caduque un certain nombre de ces éléments argumentaires pour dire qu'il est en position de force sur le plan du droit international, lui aussi le bafoue de cette manière. Et de l'autre côté, M. Tshisekedi, pareil, est aussi dans une contradiction totale en avançant en RDC, en soutenant le M23. Voilà le nœud de la situation.
François Pollet, un autre nœud peut-être qu'il faudrait dénouer ensemble, ou du moins pour mieux le comprendre, l'enjeu géoéconomique, quel est-il? On parle énormément justement de ces minerais qui abonderaient dans le Nord Kivu. Quel est l'enjeu? Là encore, hein, ce sont des minerais qui participent, j'allais dire, à notre vie quotidienne. Hein, beaucoup se trouvent dans nos téléphones portables notamment.
Oui, absolument, ainsi que dans les batteries de nos véhicules électriques. Donc on parle de coltan, on parle de tungstène, on parle d'étain. Ce sont des minéraux stratégiques, mais il y a également l'or qui représente un enjeu économique considérable. Et ces différents matériaux sont, si vous voulez, commercialisés de manière clandestine, de manière illicite, vers le Rwanda, d'où ils sont exportés vers d'autres pays, et en particulier les Émirats Arabes Unis. Donc, une bonne partie des exportations rwandaises repose sur l'importation illicite de ces minerais qui sont exploités tantôt par des groupes armés proches des autorités rwandaises comme le M23, tantôt par d'autres groupes. Donc, il est évident que un tel enjeu économique pèse aussi dans l'attitude des uns et des autres, indéniablement.
Comment vous percevez les choses, Madeleine Moukabano, sur l'enjeu justement géoéconomique? Vous avez fait non de la tête à plusieurs reprises pendant que Monsieur Pollet s'exprimait.
Parce qu'il y a le mythe des mines du Congo, des richesses du sous-sol du Congo. Si on ne fait pas attention, là autour de cette table, on va nous dire que nous avons du coltan dans nos poches.
Hein. Non, mais c'est vrai que l'ONU a pointé à plusieurs reprises le fait que le M23 participait justement à exporter au Rwanda plusieurs minerais, notamment le...
Soyons sérieux.
Nous sommes très sérieux pour l'instant.
D'abord, les ressources Le Rwanda, c'est un pays, quand même, au moins, on lui reconnaît ça, qui travaille dans une certaine transparence ou dans beaucoup de transparence avec des institutions financières internationales et des institutions de régulation. Ce n'est pas la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de contrat sous la table.
Le M23 n'exporte pas de minerais en direction du Rwanda.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le secteur minier du Rwanda représente 13% des revenus du Rwanda. 13% seulement. La première ressource de revenus du Rwanda, c'est quoi? Ce sont les services que le Rwanda a développés. Surtout le tourisme, notamment le tourisme de conférences. La plupart des conférences sur l'Afrique sont tenues à Kigali parce que le Rwanda a développé des infrastructures, des hôtels, des centres de conférences, etc. Deuxième secteur, l'agriculture, avec l'exportation du café, du thé et des fleurs coupées. Et enfin, le troisième secteur, l'industrie. Et dans l'industrie, le minier ne pèse que pour 13%. Le Rwanda a de l'or, le Rwanda a du coltan, il a du cuivre, il a de l'étain, parce qu'il faudrait quand même prendre des gens pour des naïfs, d'imaginer que la nature a posé, a doté le sous-sol de la République démocratique du Congo et s'est arrêté à la frontière de Goma. C'est la même géographie, c'est la même géologie.
Je me permets de vous couper, donc il n'y a pas d'exportation, d'importation même du point de vue du Rwanda, de ces minerais justement depuis le Nord Kivu.
Mais non, le Rwanda a ses propres mines. Le Rwanda a des mines de coltan, il a des mines d'or. Le Rwanda a même...
Mais pas ce qu'affirment les enquêtes de l'ONU. Hein.
Le Rwanda a même une usine de raffinerie d'or, ou même l'or sud-africain est envoyé là-bas pour raffinage. À un moment donné, d'ailleurs, dès sa prise de pouvoir, le président Tshisekedi avait souhaité qu'une partie de l'or du Congo soit raffinée au Rwanda avant que les relations ne s'enveniment. Le problème, c'est qu'il y a ce mythe. On va se poser la question de savoir à qui profite le crime, finalement, de soutenir que ce qui développe le Rwanda, ce sont les richesses du Congo. Oui, le Rwanda se développe par rapport au Congo quand on compare, quand on voit que ce pays rend des services aux populations, qui a l'assurance maladie, qui a la retraite pour les paysans, des complexes scolaires dans les milieux ruraux, etc., etc., des routes, l'électricité, l'eau, oui, mais c'est pourquoi ? C'est la lutte contre la corruption avant tout.
Alors justement, peut-être...
Il ne faut pas l'oublier.
Peut-être...
C'est la sécurité.
Jean-Claude Félix Tshikaya, sur ce point, quelle est la réalité justement de cette guerre géoéconomique, comme vous la qualifiez?
Oui, j'ai un désaccord, et là je m'appuie sur toutes les études menées. Et,
moi aussi.
Donc, études contre études. Et,
non mais les faits avant tout, allez-y.
Les faits avant tout, et notamment donc, sur les faits, le RDC est une puissance en termes... diversité minéralogique en termes de cobalt. Et bien sûr, la superficie du Rwanda, côté de on l'a dit tout à l'heure, c'est cinq fois la RDC, c'est cinq fois la France, mais sur le plan des minerais, il est impossible, il me semble impossible de nier que le Rwanda, je parle de Rwanda politique, institutionnel, économique, Monsieur Kagame, par l'intermédiaire aussi des milices, M23, mais aussi des milices congolaises, des élites congolaises aussi, qui parfois s'emparent de territoires sans l'aval de l'autorité centrale de Kinshasa, revend les minerais au Rwanda. Comment vous pouvez m'expliquer, madame, et c'est ce qui d'ailleurs surprend toutes les chancelleries autour, mais aussi l'ONU et autres, que le Rwanda se retrouve parfois à la première place en termes de minerais, voire dans les 10 premiers, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même, je vous suis, je vais de Goma parfois au Rwanda, je vous suis. Il n'y a pas, comme c'était dit pour Tchernobyl, qui s'était arrêté entre les frontières. Non, pareil pour les sous-sols. Mais le tonnage, ce qui est estampillé Rwanda, au niveau de l'or, par exemple, au niveau des minerais, à 90% appartient de manière territoriale à la RDC, ce qui contribue à appauvrir la population de Goma. Je parle de la société civile. Ce qui contribue malheureusement à créer. Je finis, madame.
Chacun termine.
Ce qui contribue malheureusement à chaque fois à alimenter les nœuds, pas seulement politiques. C'est pour cela que je dis politique, géopolitique et géoéconomie. C'est pour cela, et je le dis, je le répète, que les deux institutions qui se sont mises ensemble, je parle de la compagnie, je parle de la communauté de l'Afrique australe et aussi de la SADC, qui se réunissent pour, et ils ont donc eu gain de cause ce soir, pour réunir les deux présidents, M. Tshisekedi et Kagame, ce 8 février à Dar es Salaam, vont mettre tout cela sur table. Et il est indéniable, au regard des études, après vous avez vos études, j'ai les notes, mais elles sont soumises aux institutions. Et c'est pour cela que même l'Union européenne s'est mise du côté de M. Tshisekedi, même M. Macron, qui n'est pas partisan pour l'un ou l'autre. Donc il est important, au regard de ce que aucune chancellerie, aucune étude sérieuse ne dément, que 90%, ce qui est estampillé Rwanda, appartient à la RDC.
François Pollet, d'un mot, est-ce qu'il existe, selon vous, à propos de ce conflit, un tabou diplomatique lié notamment au génocide qui a eu lieu au Rwanda il y a déjà 30 ans, et donc une difficulté peut-être notamment de la part des Européens, plus encore de la France, à prendre position dans ce conflit?
Je le pense indéniablement. Je crois que le Rwanda a notamment construit sa politique étrangère sur la mise en avant de ce génocide, de ces atrocités qui bien entendu ne doivent pas être remises en question dans leur réalité historique. Et cela lui a permis, je pense, dans une certaine mesure, d'éviter les critiques internationales en arguant du fait que il devait mettre en place les conditions de son intégrité, de la protection de sa population. Et donc cela a pu contribuer effectivement à ce que les grandes puissances ferment les yeux. Mais il n'y a pas seulement cette posture, je dirais, de pays ayant souffert d'un génocide qui est utilisée. Il y a aussi la capacité du Rwanda à se projeter sur la sphère internationale comme un pays fiable, un pays sérieux, un pays qui peut assurer des missions de rétablissement de la sécurité, de lutte contre le terrorisme dans différents états de la sous-région. Donc c'est un pays qui a réussi à signer des partenariats économiques et sécuritaires avec différents pays. Et donc ça lui a donné une certaine crédibilité internationale, mais qui est, je pense, tout doucement en train de montrer ses limites depuis quelques semaines, à mesure que le drame des Kivu s'approfondit et que les preuves de l'appui du Rwanda à la milice du M23 sont documentées et mises en avant par les Nations Unies et puis aussi mobilisées par les différentes chancelleries. Donc on a eu une réunion au Conseil de sécurité la semaine passée, lors de laquelle à la fois les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont pointer les responsabilités du Rwanda et condamner l'action du Rwanda à travers son appui au M23. Donc quand bien même la déclaration finale de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité ne cite pas nommément le Rwanda mais parle de force extérieure, les pays occidentaux sont sortis de la réserve qu'ils ont eue les années précédentes par rapport à cette implication du Rwanda dans la problématique des Kivu.
Madeleine Mukabano, une réaction, vous levez même le doigt.
Non, il y a une certaine indécence dans ce que je viens d'entendre. Et une certaine indécence d'ailleurs qui correspond aussi à une certaine indécence de la communauté internationale.
C'est-à-dire laquelle ?
En 1994, la communauté internationale a laissé mourir plus d'un million de Tutsis, sous l'eau. Tout le monde l'a vu. Ils n'ont pas levé le moindre petit doigt. En 1994, quand une partie des auteurs de ce génocide sont arrivés au Congo, qu'ils ont commencé à tuer les Tutsis congolais, et même les non-Tutsis, d'ailleurs les rwandophones congolais, la communauté internationale a fermé les yeux. La mission des Nations Unies était là, comme au Rwanda d'ailleurs. Ils n'ont rien fait. Au contraire, on les a vus là, il y a quelques jours, en train de se battre aux côtés de ces miliciens génocidaires, aux côtés des mercenaires roumains pour défendre Goma. Et aujourd'hui, c'est eux qui donnent la leçon au Rwanda. Qu'est-ce qu'ils demandent au Rwanda ? Renoncez à votre sécurité. Est-ce que, vraiment, franchement, le Rwanda peut renoncer à sa sécurité ? Les rescapés du génocide aujourd'hui, qui tremblent à l'idée que ça recommence ? Les paysans qu'on a transformés en tueurs, qui tremblent à l'idée que ça recommence ? On leur demande d'ouvrir leurs frontières et de se taire. Mais le problème n'est pas là seulement. Je crois que vraiment, quand je parle d'indécence, c'est que tous ces pays européens que vous venez de citer, mais aussi les États-Unis, la Chine, la Russie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils exploitent les mines du Congo. Ils les exploitent d'ailleurs dans des conditions qu'on ne connaît pas, respect des conditions écologiques. Est-ce qu'il y a des retombées pour la population congolaise ? Pas grand-chose, à ce que je sache. Non, laissez-moi terminer juste une seconde. Ces pays sont obligés d'accepter de condamner le Rwanda parce que sinon leurs contrats sont annulés. Les médias internationaux, allez sur le site de Radio France Internationale, lire ça. Les médias internationaux comme France 24, comme Radio France Internationale, sont obligés de respecter les consignes de Kinshasa. Vous ne parlez pas, vous ne passez pas la parole à quelqu'un du M23, vous ne parlez pas de l'avancée des troupes, sinon on coupe votre signal. C'est-à-dire que quand même... Après, il a raison, d'ailleurs, peut-être, le président Tshisekedi, avec ses richesses...
On demandera aux journalistes concernés s'ils sont effectivement contraints de suivre ces règles.
Il y a un chantage au contrat face à ces puissances qui, aujourd'hui, sont obligées d'unir leur voix pour condamner le Rwanda.
On demandera tout de même aux personnes concernées, Jean-Claude Félix Tshikaya, d'un mot tout de même, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission. Ce tabou diplomatique, médiatique, vous, comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce qu'il est, selon vous, lié à l'histoire du génocide et au génocide même, en quelques mots ?
Oui, il est effectivement lié, comme ça vient d'être expliqué. Je suis en partie d'accord et d'autres parties où je vais donc énoncer ma différence. Bien sûr, la responsabilité de la communauté internationale et notamment même des pays que je viens de citer, que ce soit la France, le Royaume-Uni, mais l'ONU, par rapport au génocide, c'est là aussi documenté. Mais ceci étant dit, cela, encore une fois, à l'épreuve des faits, ne peut pas donner quitus à M. Kagame pour soutenir le M23 et d'autres milices. Et ne donne pas quitus non plus à M. Félix Tshisekedi de se servir de milices qui sont impliquées de près ou de loin, donc peu ou prou, avec ce qui a malheureusement généré donc le génocide, mais aussi le danger qui est ressenti par la population rwandaise.
Les deux précédents donc qui se rencontreront dans quelques jours. Pardonnez-moi de vous couper les uns les autres. C'était passionnant et intense également, mais on arrive déjà au terme de cette émission. Je rappelle vos trois noms, Jean-Claude Félix Tshikaya, François Paulet et Madeleine Moukamabano. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus à Question du Soir.